La semaine de l'art.
Le magazine radio de la Tribune de l'Art.
Bonjour et bienvenue dans cette 26e émission de la Semaine de l'Art avec notre invité Rémi Matisse, président de Wikimedia France, spécialiste de l'estampe du XVIIe siècle et conservateur au département des estampes de la BNF. Bonjour Rémi.
Bonjour.
Rémi Matisse qui vient de me dire avec... je suis absolument scandalisé qu'il n'avait encore jamais écouté l'émission, donc je vais le passer au crible de mes questions encore plus, de manière encore plus forte.
Je me fouetterai ce soir.
Pardon ?
Je me fouetterai ce soir.
J'espère bien. Donc, tout d'abord, comme vous le savez, donc, nous avons d'abord une chronique.
La chronique.
L'indifférence, voire le dédain de la mairie de Paris pour le patrimoine est un point avéré que l'on peut, hélas, constater tous les jours. Évidemment, c'est une chose sur laquelle nous revenons souvent, mais comme Anne Hidalgo revient fréquemment sur le patrimoine pour le maltraiter, il est normal que la Tribune de l'Art revienne fréquemment sur ce sujet. Elle vient donc d'en donner un nouveau témoignage avec son fameux « budget participatif », je mets le terme entre guillemets, dont elle se gargarise à longueur d'interview. Rappelons que son principe consiste à faire voter les Parisiens sur la manière d'employer 5% du budget d'investissement de la ville. Cela représente tout de même sur 6 ans 426 millions d'euros, alors que les associations estiment à 500 millions seulement sur 15 ans le montant qu'il faudrait consacrer au patrimoine religieux parisien pour le restaurer. La sauvegarde des églises n'est donc pas un problème budgétaire, mais une question de volonté. Mais la mairie de Paris se moque bien que les monuments historiques s'écroulent. Les projets qu'elle propose en sont la preuve éclatante s'il en fallait une. Pour cette première édition du, entre guillemets, budget participatif, on pourra donc choisir parmi 15 projets qui seront mis en œuvre à partir de 2015. Et parmi eux, pas un seul ne concerne le patrimoine. On nous objectera que l'un d'entre eux concerne les musées, mais il n'est pas question ici de donner aux établissements parisiens l'argent qui leur manque cruellement pour enrichir leur collection. L'opération fumeuse s'il en est permettra de... Je cite, « faire se rencontrer les Parisiens et les œuvres des 14 musées de leur ville ». Pour rencontrer les œuvres, il nous semble qu'il faut peut-être d'abord ouvrir les salles, dont beaucoup sont fermées par manque de gardiennage, quand d'autres sont simplement vides, comme au Petit Palais dans la galerie à droite de l'entrée, afin de pouvoir les louer aux entreprises. Ou encore faudra-t-il disposer déjà d'une base de données digne de ce nom. Mais celle-ci tombe régulièrement en rade, comme c'est le cas actuellement, on parvient à une page qui nous indique « la ressource est introuvable », et même quand cette base de données fonctionne, le catalogue est pour beaucoup de musées d'une extrême pauvreté. Mais l'important, ce n'est pas que tout cela marche, ou que cela soit réellement utile. L'important, c'est que ce soit révolutionnaire. Il s'agira en effet, je cite encore, d'une façon révolutionnaire de redécouvrir et de se réapproprier les richesses des 14 musées de la ville de Paris. Avant de redécouvrir ces richesses, on aimerait d'abord, tout simplement, pouvoir les découvrir. Tous les autres projets sont à l'avenant. Des gadgets coûteux, inutiles, mais festifs. Avec Anne Hidalgo, nous l'avions déjà signalé, on danse à tous les coins de rue, même si c'est sur des ruines. On aura ainsi des kiosques pour faire la fête. Des kiosques dont on espère qu'ils seront mieux restaurés que celui de la place de la Nation, voire notre article. Où on rendra la rue aux enfants qui pourront peut-être aussi fêter leur anniversaire dans des tipis, sic, offerts par la mairie de Paris. Non, nous n'inventons rien, c'est bien dans les projets. Le jeu est partout grâce à Anne Hidalgo. Du pain et des jeux, voilà tout ce qu'il faut aux parisiens esbaudis par tant d'audace. Un des projets s'intitule ainsi « Jouer de 7 à 77 ans ». On pourra aussi faire du sport urbain en liberté, je mets ça entre guillemets. Et même, merveille entre les merveilles, les installer dans des, je cite encore, des espaces libres sur le métro aérien. Anne Hidalgo et la mairie de Paris semblent ignorer que cela existe déjà, par exemple sous la ligne 2, et qu'il n'y a pas besoin d'investissement très lourd pour les mettre en fonction, juste les nettoyer et reloger ailleurs les sans-abri qui ont élu domicile. Si vous promenez le long de la ligne 2, vous verrez que ces terrains de sport existent mais qu'ils sont inutilisables. L'art n'est pas oublié, nous sommes un peu injustes, mais il ne s'agit pas, bien entendu, de l'art ancien, réactionnaire et inutile. Aux portes de Paris, entre guillemets, quatre interventions artistiques relieront symboliquement la capitale et les communes voisines aux quatre points cardinaux. Et pour cela, Anne Hidalgo ose même faire appel au man de clown Nicolas Ledoux. Elle propose aussi de dynamiser et embellir l'espace public par des interventions artistiques. On s'inquiète un peu, car pour l'instant, la mairie de Paris a davantage enlaidi l'espace public qu'elle ne l'a embelli. Quant à le dynamiser, on ne sait pas trop ce que cela veut dire. On découvre, en lisant son programme, qu'il s'agit de restaurer des œuvres récemment créées et de passer de nouvelles commandes. Pourquoi pas ? Mais cela serait moins discutable si les œuvres patrimoniales étaient traitées au moins d'une manière équivalente. Nous passerons enfin sur les jardins sur les murs, entre guillemets, ou les piscines éphémères, entre guillemets toujours, typiques des obsessions ludiques et végétales de la mairie de Paris. Enfin, une obsession végétale qui s'arrête au cerf d'Auteuil. Je me retourne vers mon invité, donc Rémi Matisse. Et tout d'abord, pouvez-vous nous dire comment est née votre vocation d'historien ou d'historien de l'art? Parce qu'avant l'émission, nous avions un débat. Je vous disais que vous étiez historien de l'art, vous disiez historien. Alors, quelle est la différence pour vous? Et vous êtes quand même maintenant historien de l'art.
Alors, je suis en tout cas historien de formation, c'est-à-dire que je suis chartiste, que j'ai fait ma thèse sur un ministre de Louis XIV, sur Simon Arnaud de Pomponne, donc sur la diplomatie sous Louis XIV. Et si je suis historien de l'art, ce que je suis en tout cas par la force des choses, c'est à partir du moment où j'ai donc pris ce poste au département des estampes de la BNF, qui m'a amené à m'intéresser à la question de l'image, qui m'intéressait déjà auparavant, bien évidemment, mais où forcément quand on travaille sur les estampes, on est amené à avoir une approche plus historienne de l'art, tout en conservant une approche d'historien. Et je pense qu'il y a on peut avoir deux approches de l'estampe qui sont différentes.
Mais alors, comment êtes-vous passé à l'estampe, justement?
Alors, je suis passé à l'estampe de manière complètement... qui reposait sur une opportunité qui s'est offerte, c'est-à-dire que j'étais surtout spécialiste du XVIIe siècle et que les fonds du XVIIe siècle de la Bibliothèque nationale de France sont absolument superbes. Et donc, quand ce poste s'est proposé, j'ai tout simplement trouvé ça très intéressant.
Donc, vous êtes spécialisé après être arrivé sur le poste plutôt qu'avant.
C'est ça.
Effectivement. D'accord. Et donc, vous êtes arrivé conservateur de la Bibliothèque nationale quand
En 2010.
2010, d'accord. Alors Wikipédia, parce qu'on parle de la Bibliothèque nationale, nous reviendrons sur votre rôle de conservateur à la Bibliothèque nationale tout à l'heure, mais il y a bien sûr l'aventure Wikipédia, vous êtes très présent dans les médias actuellement sur Wikimedia. Comment êtes-vous arrivé justement à Wikipédia? C'est pas par l'histoire, c'est pas par la Bibliothèque nationale, je pense.
C'est pas par la Bibliothèque nationale, mais c'est vraiment par l'histoire, par mon poste dans les bibliothèques d'une manière générale, qui repose sur une volonté de partager la connaissance, de partager la culture. Et donc, j'ai commencé à contribuer à Wikipédia, en fait, quand j'étais élève à l'École des Chartes, justement, où l'École des Chartes a le grand avantage actuellement d'être assez portée sur les nouvelles technologies, les digital humanities, et donc n'a en tout cas aucun a priori sur ces outils pour faire de la recherche et de l'histoire. Et dans le cadre de ces cours, on nous avait parlé de Wikipédia et j'ai commencé à m'y intéresser, à rédiger quelques articles et on se prend au jeu très très rapidement, c'est-à-dire que c'est très agréable, ça permet de publier, en tout cas de mettre à disposition des informations sur des sujets qui nous intéressent et qui étaient complètement introuvables auparavant et donc petit à petit, on met la main dans l'engrenage.
Mais est-ce que c'est pas un peu frustrant parce que c'est anonyme finalement, vous écrivez, mais de manière anonyme?
Alors, c'est pas vraiment de manière anonyme, c'est-à-dire que on publie sous forme de pseudonyme qui peut être son véritable nom si on le désire, ce qui est mon cas. Donc, moi, tout ce que je fais m'est attribué, chacun a une page où il se présente ou qui n'est pas du tout obligatoire. Mais si on veut qu'on sache qui on est et pourquoi on le fait, on peut très bien le dire sans aucune difficulté.
Mais le lecteur normal ne va pas sur ces pages de discussion, c'est-à-dire quand il va sur la page, il n'y a pas de signature en revanche.
Alors, ces signatures sont dans l'historique de la page qui permet justement de comprendre qui a écrit sur cette page, de quelle manière, avec quelle chronologie. Et si le lecteur n'y va pas, c'est quelque chose qui n'est pas bien. C'est-à-dire que pour réussir à vraiment lire Wikipédia en toute connaissance de cause et en comprenant pourquoi est-ce que cet article est long, est court, est bon, n'est pas bon, etc., c'est toujours intéressant de se rendre sur cet historique pour comprendre qui a écrit ça et pourquoi.
Alors, nous reviendrons d'ailleurs sur les articles Wikipédia, et en particulier sur les articles Wikipédia d'histoire de l'art. Mais avant cela, pouvez-vous nous dire la différence entre Wikimedia et Wikipédia?
C'est pas seulement une lettre. La différence entre Wikipédia et Wikimedia, c'est que Wikipédia, donc, c'est le site internet. C'est l'encyclopédie, c'est un lieu où les gens se retrouvent pour rédiger cette encyclopédie tous ensemble au sein d'une communauté. Wikimedia, c'est le nom des structures qui gèrent ce site internet et d'autres sites, Wikisource, le Wiktionnaire, Wikimedia Commons, etc., qui fonctionnent selon les mêmes principes que Wikipédia sur d'autres thèmes. Et donc, ces structures sont la Wikimedia Foundation, qui est la structure internationale de droit américain, et ensuite des structures pays par pays, comme Wikimedia France, donc, que je préside en France, Wikimedia Deutschland, Wikimedia CH en Suisse, Wikimedia UK, en Grande-Bretagne, et ainsi de suite.
Donc, par rapport à ça, donc on verra tout à l'heure le site Wikimedia, ce qu'il peut apporter en termes de photos, par exemple. Mais pour les droits photos, donc justement, pour les droits photos, comment faites-vous pour publier des photos d'œuvres? Alors, la Tribune de l'Art peut publier des photos d'œuvres parce que nous sommes un journal, donc droit à l'information, c'est prévu dans la loi. En revanche, il est assez compliqué pour d'autres sites qui ne sont pas dans l'actualité, et Wikipédia n'est pas dans l'actualité, pour de publier des photos d'œuvres. Alors, je crois que les œuvres en deux dimensions, ça ne pose pas de problème. Vous êtes d'accord avec nous?
Alors, ça dépend quelles œuvres, et il y a deux grands cas qu'il faut étudier. Il y a deux donc régimes juridiques qui existent dans les photos qui sont publiées sur Wikipédia. Vous aurez d'une part des photos qui sont dans le domaine public pur, c'est-à-dire là, ce sera des reproductions mécaniques d'œuvres anciennes, donc qui seront des œuvres en deux dimensions. Vous prenez une estampe ancienne, vous scannez cette estampe, le fait de scanner ne fait pas naître de nouveaux droits d'auteur. L'estampe du 17e est dans le domaine public parce que son auteur est mort depuis plus de 70 ans. Donc, c'est du domaine public pur. C'est le premier cas. Le deuxième cas, ce sera ce qui est placé sous licence libre par une personne qui possède des droits d'auteur sur une œuvre. L'exemple, ça va être, vous avez un article sur un sculpteur du 19e siècle sur Wikipédia, on a besoin de reproduire ses œuvres. Ses œuvres, en tant que telles, sont dans le domaine public puisque cette personne vivait au 19e siècle. En revanche, si vous prenez une photo de cette sculpture, vous allez refaire naître des droits d'auteur sur la photographie.
C'est discuté, hein. C'est quand même un point même que celui-ci est discuté.
Alors, sur les sculptures, pas spécialement. À partir du moment où on est sur des choses en trois dimensions, il y a normalement un droit d'auteur qui existe, sauf dans des cas extrêmement précis qui seront, par exemple, si vous êtes dans un studio photo avec systématiquement six photos prises de manière mécanique aux six mêmes endroits autour de cet objet, comme ça va être le cas, par exemple, pour la numérisation des marionnettes par la Bibliothèque nationale de France. En dehors de cas extrêmement spécifiques tels que ceux-là, il y a un droit d'auteur qui existe. Et donc, à ce moment-là, la personne qui a pris cette photo et qui est donc titulaire des droits d'auteur la mettra sous ce qu'on appelle une licence libre, c'est-à-dire qu'elle renoncera à une partie de ses droits d'auteur pour permettre des réutilisations. Donc la licence qui est utilisée par Wikipédia est une licence qui permet des réutilisations extrêmement larges, bien qu'il y ait quand même quelques conditions qui existent, en particulier, bien évidemment, citer le nom du photographe. Et à chaque fois qu'on verse donc une photo dans cette base de données multimédia qui s'appelle Wikimedia Commons, où se trouvent toutes les images qui sont utilisées sur différentes Wikipédia, on demande aux personnes de choisir leur licence en conseillant une particulière, et ça permet comme ça de diffuser des œuvres. Alors il y a quand même du coup quelque chose qui nous échappe, ça va être quand les œuvres en tant que telles n'appartiennent pas au domaine public. Et ça, c'est un des gros problèmes de l'Internet d'une manière générale, du droit d'auteur d'une manière générale, qui est que vous ne pourrez pas avoir d'œuvres d'auteurs qui sont morts depuis moins de 70 ans sur Wikipédia. Et donc, tout ce qui est art contemporain ne sera pas illustré, ce qui est quand même extrêmement dommage.
Et vous ne pouvez pas avoir l'autorisation des ayants droit.
On pourrait avoir l'autorisation des ayants droit, mais il faut contacter les ayants droit un par un, et donc il faut qu'eux-mêmes acceptent que ça soit placé sous une licence libre. Généralement, les ayants droit ne sont pas au courant, et donc il y aurait un travail à faire.
La
DAGP n'a pas vraiment intérêt à mettre sous licence libre ces images puisqu'elles les vendent, donc il faudrait que ce soit les artistes eux-mêmes qui acceptent que certaines de leurs œuvres, éventuellement uniquement une ou deux pour donner une bonne idée de leur création, acceptent de mettre sous licence libre des reproductions.
Alors revenons sur les œuvres qui sont dans le domaine public. Vous avez des campagnes photographiques, donc par exemple le Wiki Love Monuments, est-ce que vous pouvez nous dire un mot de cette campagne photographique?
Voilà, là on est beaucoup plus du côté du patrimoine. Wiki Love Monuments est un grand concours que Wikimedia France organise une fois par an au mois de septembre, à l'époque des Journées du Patrimoine, et qui est organisé dans d'autres pays autour des monuments historiques. Donc des monuments historiques au sens propre, c'est-à-dire selon les listes officielles qui sont publiées dans chaque pays, donc en France la base Mérimée du ministère de la Culture, et on appelle toute personne qui est intéressée par le patrimoine ou par la photographie ou qui juste est curieuse à prendre en photographie ces monuments historiques et à les verser, donc dans le cadre d'un concours qui permet de gagner des lots, avec une soirée qui est organisée à la fin, qui aura lieu cette année au Musée des Arts et Métiers, qui avait eu lieu au Musée des Monuments Français l'année dernière. Et c'est quelque chose qui fonctionne extrêmement bien, puisque l'année dernière, on avait eu 27 000 photos qui avaient été versées en France de monuments historiques, presque 400 000 dans le monde entier, et qui permet surtout que tout ce patrimoine de proximité, pas forcément très célèbre, très, très connu, soit redécouvert par les gens, et surtout qu'on en ait une documentation photographique, ce qui fait qu'on est maintenant à plus de 60% des monuments historiques français qui sont photographiés dans Wikipédia, c'est-à-dire une couverture qui est plus importante et plus actualisée que la base Mérimée elle-même.
Alors, en revanche, il y a des endroits où, enfin, c'est plus urbain, je crois que vous nous disiez que, enfin, lors de la coupure, que vous entendrez quand même, je ne pourrais pas la couper complètement au montage, lors de la coupure, vous nous disiez qu'il y avait des endroits plus ruraux qui étaient moins approvisionnés en photos.
C'est ça, c'est que Wikipédia, d'une manière générale, fonctionne sur une communauté, sur des volontaires qui sont ce qu'ils sont. Et bien évidemment que sur Internet, pour s'intéresser aux questions culturelles, il y a plus de gens qui sont en ville, plus dans les grandes villes. Donc du coup, la couverture des grandes villes est généralement excellente. On a à peu près fini Paris, il n'y a pas de problème sur ça. C'est plus compliqué sur les départements plus ruraux. Alors parfois, on aura des personnes passionnées qui vont entièrement couvrir un département. Je pense au département de la Charente en particulier, où il y a des gens qui ont vraiment tout fait. Et il y en a d'autres où il reste encore beaucoup de travail à faire, tout simplement parce qu'il faut se déplacer de 5 km en 5 km, trouver l'église, se faire ouvrir. C'est pas forcément très facile, donc il reste encore plein de travail pour les années qui viennent.
Et est-ce que vous envisageriez de faire la même chose, par exemple, pour Wikilove, les œuvres dans les églises, par exemple, parce qu'ils sont souvent très mal photographiés?
Oui, alors justement, on réfléchit à ce que ce concours adviendra, parce que ça fait donc maintenant 4 années que ça existe au niveau européen, donc ça commence à s'essouffler un petit peu. Les œuvres, tout ce qui est classé en tant que mobilier, c'est quelque chose qui est très intéressant.
Oui,
protégé au sens large. Simplement, c'est souvent plus compliqué à photographier parce que ça demande plus de compétences techniques et surtout, il faut se faire ouvrir des bâtiments, ce qui n'est jamais facile.
Mais c'est une piste,
c'est ça. Mais c'est une piste très intéressante, sachant que pour organiser ce type de concours, il est surtout important qu'il y ait une base de données par derrière qui permette qu'il y ait un numéro unique qui recense chaque photo pour qu'on sache ce qui est photographié. Oui. Même si la personne ne prend pas une demi-heure à décrire ce que c'est, on saura ce que c'est parce qu'il y a le numéro de Mérimée. Donc ça irait très bien pour le mobilier où la base du ministère est très bien faite.
Alors maintenant, une question qu'on doit vous poser souvent, c'est la question de la fiabilité de Wikipédia. Alors je prends un exemple. La fiabilité, je pense qu'effectivement, quand on regarde certains articles, par exemple, de mathématiques, ça paraît tellement compliqué qu'on peut penser que c'est fiable. Je ne pense pas que quelqu'un qui ne connaîtrait pas cela pourrait même écrire ces articles. En revanche, pour l'histoire de l'art, le fait est que dans beaucoup d'articles, on trouve des erreurs parfois grossières parce qu'on se réfère, la référence est souvent des articles anciens ou des livres anciens et que vous souhaitez tout le temps que soit sourcée l'information. Mais je prends un exemple. Sur un artiste qui s'appelle Jean-Baptiste Bechot, qui est un Lyonnais, un artiste peu connu du 19e siècle lyonnais. Je le connais parce que j'ai un dessin dans ma collection de sa part, qui est un très beau dessin, c'est un bel artiste, mais qui est absolument inconnu. Moi-même, je ne sais pas où il a peint d'autres œuvres. Enfin, il n'y a pratiquement rien qui existe sur lui. Et je ne sais pas pourquoi, dans l'article Jean-Baptiste Bechot, qui existe sur Wikipédia, ce qui prouve quand même qu'on peut avoir aussi des choses très très peu connues, cet artiste est confondu avec François Bouchot, qui est un autre peintre du 19e siècle, également assez peu connu, qui a peint dans l'église de la Madeleine une très belle scène, une très belle lunette à l'intérieur de la Madeleine, et on dit que c'est Jean-Baptiste Bechot qui l'a peinte. Or, je connais bien cette peinture, c'est un peu ma spécialité, je sais parfaitement que ce n'est pas Jean-Baptiste Bechot, mais François Bouchot. Je vous avoue, j'ai corrigé, mais je ne suis pas sûr que ma correction va vraiment rester en ligne, puisqu'elle n'est pas sourcée. Elle n'est pas sourcée parce que si je dois retourner dans mes livres pour chercher la référence, si je dois rentrer la référence, ça prend beaucoup de temps et que je n'ai pas forcément le temps de le faire. Et je pense que beaucoup d'historiens de l'art n'ont pas le temps de le faire. Alors sur cette question de la fiabilité en général de Wikipédia, là je crois que vous avez des réponses qui sont assez bonnes que j'ai déjà entendues ailleurs, vous allez peut-être les faire ici. Mais également sur la fiabilité de l'histoire de l'art, qui n'est pas forcément très bonne, plutôt moins bonne que le reste je trouve en tout cas en général. Et sur la possibilité qu'auraient peut-être des personnes qui sont des connaisseurs, des historiens de l'art, reconnus, ou du moins reconnus dans leur domaine, qui pourraient être avalisés ou estampillés par Wikimedia ou Wikipédia, et qui auraient le droit de corriger quelque chose sans forcément donner la source. D'ailleurs, peut-être que ce sont eux la source. C'est-à-dire que si vous-même, vous trouvez une chose inédite sur une estampe, il va falloir que vous la publiez d'ailleurs, d'abord ailleurs, et ensuite que vous fassiez référence à votre publication ailleurs. C'est quelque part un petit peu curieux, même si effectivement... Enfin, c'est un peu curieux.
Alors, je ne sais pas si j'ai des bonnes réponses, mais en tout cas, pour voir quelle est la logique par derrière, il faut justement comprendre comment fonctionne Wikipédia. Wikipédia, donc, le but premier était de réussir à faire une encyclopédie qui évolue en permanence, qui s'améliore en permanence, en faisant intervenir un très grand nombre de personnes. Pour ça, il fallait limiter au maximum toute embûche pour pouvoir écrire, et donc c'est pour ça qu'on peut écrire sans dire qui on est, sous un pseudonyme, sans prouver qu'on est un spécialiste, etc. La conséquence de ça, c'est qu'on n'est pas du tout sur un régime de vérité qui est celui du spécialiste tel qu'il existera dans certains médias, dans les encyclopédies très traditionnelles, où on partira du principe qu'une personne qui a travaillé sur tel sujet a de bonnes chances de ne pas se tromper parce que c'est un spécialiste. Sur Wikipédia, on ne sait pas si les gens sont des spécialistes ou pas, parfois ils en sont, parfois pas, mais on va leur demander justement d'amener des sources pour qu'on sache d'où vient leur information et que toute personne qui passe après, y compris en tant que lecteur, puisse critiquer cette information et accorder un crédit plus ou moins important en fonction des sources qui sont utilisées. Du coup, à partir de là, on comprend d'une part que la qualité des articles de Wikipédia soit diverse en fonction des sujets et en fonction des thèmes, c'est-à-dire que il y aura des bons articles à partir du moment où c'est des sujets qui ont attiré un certain nombre de personnes, où il y a pu y avoir justement différentes personnes qui passeront les unes après les autres pour
trier,
pour
ramener
des sources, etc.
Alors, c'est peu probable.
L'autre solution aussi, c'est que ce soit une personne qui écrit. Et à ce moment-là, c'est simplement le système de relecture perpétuelle de Wikipédia ne fonctionnera pas. S'il n'y a qu'une seule personne qui a écrit, soit c'est bon, soit c'est mauvais. Mais on dépendra entièrement de ce qu'a fait cette personne-là. Après, du coup, sur la question de faire intervenir des spécialistes qui interviendraient en tant que spécialistes, c'est pas quelque chose qui est étudié pour l'instant, parce que précisément, le but est de toujours pouvoir se référer à une source, un spécialiste qui dirait « moi je pense ça et je suis spécialiste », ça n'amène, c'est complètement invérifiable. On est amené à faire une confiance aveugle à une personne, et c'est précisément ce que l'on ne veut pas. C'est que on se place entièrement dans ce dialogue académique de si on n'est pas d'accord avec une hypothèse, on publie pour dire que c'est faux et que la recherche a progressé, et Wikipédia, comme ça, progresse au fur et à mesure que la recherche progresse.
Alors que faut-il faire si on trouve une erreur évidente, comme ce Jean-Baptiste Bechot, François Bouchot, on ne fait rien?
Il faut précisément intervenir, mais en allant chercher cette source pour...
Ça prend beaucoup de temps, vous le savez vous-même.
Ça prend beaucoup de temps. Après, il faut savoir si vous aimez François Bechot ou pas. Non, mais plus sérieusement, ça prend du temps de faire des choses qui soient de qualité suffisante. Et donc, à partir du moment où on veut que ça fonctionne, il faut se fonder sur des sources. Sans ça, et on a des cas extrêmement nombreux, et c'est pour ça que la source a pris une importance de plus en plus grande au cours des années de 2000 sur Wikipédia, vous avez des personnes qui se présentent comme spécialistes, docteurs et sciences, etc., mais qui ont des blogs pour expliquer que les ovnis, ça existe et qu'ils ont...
Ils publient même des livres qui peuvent servir de source.
Alors, simplement, il y a des champs de recherche et qu'on sait très bien qu'il y a des livres sur les ovnis, mais il y a aussi des livres anti-ovnis, et on sait très bien qu'il y a des gens plus ou moins sérieux qui publient sur ça. Mmh. Donc, le but est qu'il y ait justement ces discussions pour qu'on fasse l'état de l'art précis dans un domaine et qu'on sache, actuellement, nous n'avons pas de preuves que les ovnis existent, et les ufologues sont considérés comme des gros rigolos. Et il faut qu'il se passe la même chose en art et en histoire de l'art, faire en sorte que ce soit vraiment les connaissances actuelles qui soient disponibles en se référant à des publications de qualité.
Alors vous avez, pour terminer sur Wikipédia, un partenariat avec des musées, certains musées. Quel est ce partenariat ?
Alors, on a de très nombreux partenariats, donc, qui sont faits par Wikimedia France, avec des buts qui sont différents et qui collent surtout aux besoins des musées. Alors, on a par exemple publié un certain nombre, enfin, fait un partenariat avec le Centre Pompidou, où là, il s'agissait justement de prendre acte que les articles sur l'art contemporain n'étaient pas de qualité suffisante. Et en proposant à un certain nombre de personnes qui n'étaient pas des spécialistes, mais qui étaient des amateurs intéressés, de venir au Centre Pompidou, où ils bénéficiaient de bibliographies, de visites par des conservateurs, d'un travail préalable par les bibliothécaires de la BK, etc., pour faire en sorte que ces articles soient améliorés. On a, du même genre, on avait fait des ateliers également avec le Musée National du Moyen-Âge de Cluny, donc sur des thèmes différentes. Et il y a également d'autres partenariats qui existent, qui sont plutôt tournés du point de vue des photographies, où le but va être de prendre en photo un certain nombre d'objets qui sont conservés dans ces musées. Donc soit des photos qui vont être prises par des Wikipédiens. C'est notamment le cas d'un très beau partenariat qu'on fait avec le musée La Cité de la Céramique de Sèvres, où là, ça fonctionne dans les ateliers même, où des Wikipédiens vont prendre des photos et des films pour conserver le souvenir et documenter les gestes qui sont faits par les artisans.
Il y a également encore, des films sur Wikipédia ?
Oui.
Où les trouvez-vous ?
Alors, ils sont versés sur Wikimedia Commons comme les photographies elles-mêmes, et ensuite, ils pourront être utilisés sur différentes pages. Donc, j'ai pas vérifié, mais si vous allez sur l'article sur la Cité de la Céramique, il y a de bonnes chances que vous en trouviez. Et de la même manière, il y a un certain nombre de musées qui ont eu carrément décidé de verser entièrement leur numérisation. C'est le cas en particulier d'un petit musée qui est le musée des arts et traditions populaires de la Haute-Saône, au château de Champlitte, qui part du principe qu'ils sont trop peu connus du grand public, que Internet est un moyen très bon de faire connaître leur collection, que par ailleurs, autant on a un certain nombre d'œuvres d'art sur Wikipédia, autant c'est pas forcément facile de trouver des choses qui relèvent des arts et traditions populaires. Et donc, toute leur numérisation qu'ils versent dans les bases du ministère, ils les versent également sur Wikipédia.
C'est l'inverse de ce qu'on voit dans beaucoup de musées qui sont jaloux sur la protection des œuvres de leur collection.
Oui, non, c'est quelque chose qui évolue beaucoup, en particulier en lien avec toutes les questions d'open data, open content qui se passent actuellement, y compris au niveau du ministère, qui a beaucoup évolué sous Madame Filippetti. Et donc c'est quelque chose qui évolue beaucoup, qui est appelé à évoluer encore au cours des années qui viennent, mais la voie nous est clairement montrée par certains grands musées, en particulier américains et d'Europe du Nord. Je pense en particulier au LACMA, au Getty, au Rijksmuseum, qui mettent toute leur numérisation entièrement disponible pour tout le monde, pour tous les usages, et qui du coup s'insèrent complètement dans les usages sur Internet et font en sorte que leurs collections sont vues par un très grand nombre de personnes.
Les nouvelles très très brèves.
Nous allons lui consacrer un article dès ce soir, mais nous pouvons annoncer dès maintenant que grâce aux qualités de diplomate de Laurent Lebon, le nouveau président du musée Picasso, et l'intervention d'Alexandre Gadi de la SPPEF, Société pour la protection des paysages et d'esthétique de la France, non seulement la pergola installée dans le jardin du musée Picasso va être déposée, mais surtout des négociations avec la ville de Paris vont être entamées pour réunir enfin les deux espaces verts actuellement séparés par une grille devant le musée Picasso. Donc si vous vous promenez devant le musée Picasso, vous verrez qu'il y a une espèce de square, et derrière il y a le jardin du musée qui avait cette pergola, dont nous avons contesté l'intérêt. Eh bien, tout cela va être démonté, et surtout, le jardin va retrouver à terme son unité, telle qu'elle était au XVIIe siècle. Donc, finalement, d'un mal va naître un bien, et c'est quand même une drôlement bonne nouvelle, je trouve, pour le Marais.
Tout à fait.
Les publicités géantes, maintenant, une nouvelle fois, mais elles ne sont pas l'apanage de Paris, puisque la première de ce genre, avant même Venise, avait été apposée sur la façade de la Trinité des Monts à Rome, alors en restauration. Alors que les travaux étaient terminés depuis déjà longtemps, et que cette affiche avait été enlevée de l'église, je l'avais vue ainsi il y a 2 ou 3 ans, j'ai été particulièrement surpris de constater que non seulement les échafaudages sont revenus, mais aussi la publicité sur la façade de la Trinité des Monts. Finalement, c'est pas très étonnant, puisque la Trinité des Monts est, rappelons-le, un établissement français. Les journées du patrimoine, j'ai dit dans un éditorial paru hier, le paradoxe qu'il y a à organiser des journées du patrimoine consacrées au patrimoine naturel, alors que celui-ci est menacé de destruction à Paris même, par exemple au Cerf d'Auteuil, ou à proximité, notamment sur le jardin Albert Kahn, où un scandale se profile. C'est un point, une affaire dont nous parlons bientôt. Les jardins Albert Kahn sont également menacés dans leur intégrité. Mais bien sûr, les journées du patrimoine sont tout de même l'occasion de visiter des lieux rarement ouverts, comme par exemple l'Institut national des jeunes sourds, 254 rue Saint-Jacques, la fondation de l'abbé de l'Épée, qui est assez intéressante à voir, que j'ai vue il y a un ou deux ans, ou peu connue, comme la Bibliothèque polonaise de Paris, qui est ouverte normalement, mais qui est également un lieu tout à fait passionnant à voir, à visiter. Mon conseil, ne vous précipitez pas sur les monuments les plus connus où vous risquez de faire des heures de queue et de visiter dans des conditions déplorables. Apprécier l'art ne peut pas se faire dans des foules dignes du métro. Préférez les monuments moins célèbres qui souvent sont tout aussi passionnants et beaucoup plus calmes. Vous-même, vous allez visiter pour les journées du patrimoine, Rémi Attis?
Je visiterai peut-être, mais surtout je vais travailler en fait. Je vais ouvrir le département des estampes de la BNF où on va montrer des très belles choses. Enfin, d'une part, les espaces eux-mêmes qui ne sont pas assez célèbres alors que c'est pour partie des hôtels particuliers avec des...
Oui, des très beaux plafonds.
C'est ça, des
plafonds du XVIIe siècle. Ça, je vous conseille effectivement, si vous avez l'occasion d'aller voir le département des estampes, vous verrez des plafonds de Michel Dorigny, si je ne me
Voilà,
pas.
De Dorigny et de l'école de Vouet.
Et l'école de Vouet, donc ça c'est vraiment quelque chose à voir. Je les ai vus récemment et je ne les connaissais pas du tout. Donc, un nouveau lieu à visiter pour ces journées du patrimoine, le département des estampes de la Bibliothèque nationale. Retour vers vous, Rémi Attis. Donc, vous êtes également directeur de la rédaction des Nouvelles de l'Estampe. Donc, c'est une revue
trimestrielle,
donc qui paraît 4 fois par an.
Et je suis rédacteur en chef.
Vous êtes rédacteur en chef, pardon. Si vous n'êtes pas directeur de la rédaction, vous êtes rédacteur en chef. Pouvez-vous nous dire un mot des Nouvelles de l'Estampe? Elles sont nées quand? Qu'est-ce qu'elle publie et quels sont les auteurs qui y participent?
Alors, les Nouvelles de l'Estampe sont une revue qui a été fondée en 1963 par Jean Adhémar, qui était alors le directeur du cabinet des estampes de la Bibliothèque nationale. Jean Adhémar, en fait, à cette époque-là, s'était rendu compte que les informations sur les estampes intéressaient un grand nombre de personnes, y compris les marchands, les personnes qui créaient des estampes à cette époque-là, puisque la deuxième moitié du XXe siècle est une grande période pour les estampes artistiques, mais que ces informations avaient du mal à circuler. Et donc, dans un premier temps, il avait créé une petite feuille mensuelle pour donner ces informations qui renéotypaient et qui distribuaient à un certain nombre d'amateurs. À partir de 1972, c'est Michel Melot, qui est donc grand spécialiste de l'estampe du 19e, qui ensuite va lui-même devenir directeur du département, qui devient le rédacteur en chef et qui transforme cette feuille en une revue beaucoup plus de fond, c'est-à-dire qui publie des véritables recherches, des véritables articles. Et cette revue a donc depuis évolué en suivant ce fonctionnement, avec une grande originalité qui est que c'est à la fois une revue académique qui publie des articles historiques, des articles de recherche, des articles publiés par des conservateurs et des universitaires essentiellement, beaucoup sur l'estampe ancienne jusqu'au 19e siècle, un peu moins sur l'estampe actuelle. Et on publie également un certain nombre de textes qui là du coup ne sont pas du tout scientifiques ou académiques sur la création actuelle, qui reposent beaucoup sur des interviews, qui reposent sur des prises de position plus personnelles pour faire en sorte qu'on traite vraiment les estampes en tant que médium, des origines jusqu'à nos jours, sous l'ensemble de ces angles, c'est-à-dire vraiment d'un point de vue artistique pour l'estampe ancienne et contemporaine, et aussi pour tous les usages que pouvait avoir une estampe pour la période plus ancienne.
Alors vous m'aperçoyez effectivement que je regardais, mais nous n'avons pas donné, parce que nous donnons régulièrement les sommaires des revues savantes que nous recevons, et nous n'avons pas depuis automne 2012. Le dernier numéro date d'automne 2012. Donc bientôt nous mettrons en ligne tous les sommaires des derniers numéros des Nouvelles de l'Estampe, et nous essaierons de le faire régulièrement, parce que c'est quand même important de savoir que ce type de journal existe. Donc vous cherchez des auteurs, vous cherchez des textes, ou vous avez tout ce que vous voulez sous le...
Alors oui, ça fonctionne comme toutes les revues académiques où les soumissions sont librement ouvertes à tout le monde. Et précisément, je pense que les estampes sont vraiment un médium, un milieu qui touche à l'ensemble des historiens de l'art qui ne se rendent pas toujours compte, ou en tout cas qui n'accorde pas suffisamment d'importance aux estampes qu'il rencontre. Et a priori, un historien de l'art qui travaille sur la peinture, sur l'ornement, sur la sculpture, sur l'architecture, rencontrera des estampes à un moment ou à un autre. Donc il ne faut surtout pas que nos collègues historiens de l'art hésitent à proposer des articles en relation avec ces estampes qu'ils auront rencontrées pour des raisons extrêmement diverses, parce que c'est justement ces différents points de vue qui nourrissent la diversité d'une revue comme la nôtre.
Il n'y a pas beaucoup finalement d'historiens historien de l'art spécialisé dans les stampes en France.
Non, c'est justement un petit peu un problème. Il y a quelques universitaires, mais qui se comptent sur les doigts d'une main. Il y a les conservateurs du département des estampes de la Bibliothèque nationale de France, mais qui sont eux-mêmes ce qu'ils sont, enfin, c'est-à-dire à peu près une personne par siècle, et qui ont bien d'autres tâches que faire de la recherche. Et ensuite, il n'y a pas grand monde, c'est-à-dire qu'il y a quelques personnes qui sont intéressées, qui se spécialisent dans certains musées ou même dans des bibliothèques de villes de province. Et c'est très bien, il y aurait vraiment besoin de continuer à faire ce gros travail qui a déjà été commencé par certains musées, je pense à Nantes, à Nancy, sur leur fond d'estampes, il y a encore beaucoup à faire, mais on retombe un petit peu toujours sur les quelques mêmes personnes, et il y aura encore beaucoup de découvertes à faire.
Alors c'est vrai que quelqu'un par exemple comme Jacques Tuillier était spécialiste de peinture, oui. Mais il a beaucoup travaillé sur les estampes, il était lui-même grand collectionneur d'estampes, qu'il a légué d'ailleurs
au musée des Beaux-Arts de Nancy,
enfin qu'il a donné même d'ailleurs de son vivant au musée des Beaux-Arts de Nancy. Mais c'est vrai que c'est compliqué les stampes, je trouve. C'est quelque chose d'assez compliqué. C'est-à-dire que retrouver, identifier un tableau, c'est toujours unique, mais une estampe, elle peut être unique, elle peut avoir des variantes. Ça se rapproche parfois de. Bon, des fois, il y a des états qui sont extrêmement. Il faut vraiment. Ça n'est pas quelque chose de simple d'abord. C'est qu'une finalement, un tableau, un dessin, c'est comme c'est unique. Oui. Si on connaît l'artiste, on peut. L'œuvre, on n'est pas censé connaître l'œuvre avant. On peut redécouvrir une œuvre. Là, on doit. Trouver l'œuvre et savoir si c'est un état rare, pas rare, le papier, pas bon papier, pas bon papier, c'est un peu différent finalement de la peinture et du dessin, je trouve.
Oui, mais c'est justement ça qui est très très intéressant, c'est que c'est justement extrêmement complexe et que ça relève à la fois, on revient sur ces questions histoire de l'art, ça relève de l'art en tant qu'œuvre produite à une certaine époque en relation avec tout un milieu, parce qu'il y a également toutes les estampes d'interprétation où c'est également en lien avec un tableau pour les estampes d'ornement, les estampes d'architecture avec des choses qui sont étudiées par ailleurs, et en même temps c'est complètement inséré dans une société, dans un système économique à une certaine période, et on ne peut pas comprendre les estampes sans passer par les archives pour comprendre pourquoi est-ce qu'on a produit cette estampe à cette période-là, par qui ça a été produit, avec toute une chaîne de production entre qui a créé le motif, qui a gravé, qui a vendu, qui possédait les plaques, des éventuels retirages, des possibilités de faire des recueils a posteriori qui peuvent être vendus très longtemps plus tard. C'est vraiment quelque chose qui est justement extrêmement complexe, d'où est extrêmement intéressant.
Alors revenons au département des estampes. Quelles sont les forces et les faiblesses du département des estampes? Restons sur votre spécialité, l'estampe française du XVIIe siècle.
Alors les forces, c'est que c'est la plus belle collection d'estampes françaises du XVIIe au monde. Il y a d'autres très belles collections qui existent, comme celle de l'Albertina à Vienne, mais c'est vraiment
sur le français.
Ouais. Mais Paris reste vraiment la collection de référence, ce qui explique aussi que l'inventaire du fonds français que nous publions, bien que ce soit un inventaire de manière officielle, se rapproche en réalité d'un catalogue raisonné et soit vraiment les livres de référence sur cette période-là. Et mon prédécesseur Maxime Préau est vraiment le spécialiste qui a publié les ouvrages qui sont utilisés. Et le fait que nous soyons la collection de référence fait qu'on a également des visiteurs, des chercheurs qui sont des personnes avec qui on peut travailler, qui sont eux-mêmes des très grands spécialistes avec qui on peut partager, qui nous font part de leurs découvertes. Donc on trouve cette émulation au sein du département qui permet de réellement avancer dans le travail sur les estampes qui est encore loin d'être fini.
Et quels sont les autres grands fonds d'estampes du XVIIe siècle en France, du XVIIe siècle français en France?
Alors,
à Paris, par exemple
À Paris, vous aurez des fonds dans des musées et des bibliothèques. Alors, c'est aussi une des grandes originalités des estampes par rapport aux autres œuvres d'art, c'est qu'on en trouve beaucoup dans des bibliothèques, où elles étaient considérées un petit peu comme les livres. Ce qui a aussi des conséquences sur la manière dont on montre ces estampes. Et donc, à Paris, vous aurez des fonds très importants à l'Institut National d'Histoire de l'art, en particulier sur tout ce qui est ornemental, où ils ont des collections réellement très intéressantes. Vous en aurez dans les grandes bibliothèques parisiennes, comme la bibliothèque Sainte-Geneviève, qui vient de mettre en ligne son inventaire et qui a une collection également très importante.
Elle vient de le mettre en ligne, là ?
Il y a un an ou deux. Enfin, c'est pas si récent, mais il y a un gros travail qui a été fait. On en parle dans un numéro des nouvelles de l'Estampe, d'ailleurs. Ou une bibliothèque comme la bibliothèque de l'Arsenal a également un fonds très très important et très très beau, avec une histoire là encore très complexe, parce qu'il y a eu des échanges entre la bibliothèque nationale et ses grandes bibliothèques. Et ensuite, dans les musées parisiens, vous en aurez tout aussi bien dans les grands musées, donc le fonds Rothschild du Louvre, qui est également extrêmement riche et qui a l'immense chance de bénéficier d'expositions assez fréquentes. Donc il y a vraiment des choses très intéressantes, et c'est ma consoeur Séverine Lepape qui va reprendre ce fonds à partir du 1er octobre. On en est très très content. Et vous en aurez également au musée, au Petit Palais, où il y a le fonds du Tuy qui est très important aussi, ou au musée Carnavalet, qui a une collection également très importante.
Alors, une question qui vient par Twitter de Raveline: la petite quantité d'universitaires spécialisés, enfin le faible nombre d'universitaires spécialisés dans les estampes, est-ce que c'est spécifiquement français, ou est-ce que dans d'autres pays on a beaucoup plus de spécialistes de l'estampe?
Alors, d'une manière générale, les estampes ne sont pas ce qui est le plus favorisé dans l'histoire de l'art. Il y a toujours un côté un petit peu méprisant de certains historiens de l'art envers ce médium en noir et blanc, multiple. Voilà, ça semble moins intéressant. Et du coup, on retrouve un petit peu ce comportement même dans le grand public, où on s'intéresse à la peinture et les estampes semblent quelque chose de vraiment spécialiste. Pour autant, il y a vraiment des différences par pays, où en particulier en Europe du Nord, on s'y intéresse beaucoup plus, y compris pour la création qui a lieu actuellement, où on peut vivre en étant graveur aux Pays-Bas, alors que c'est beaucoup plus compliqué en France. Et donc oui, on se rend compte que chez les Allemands, chez les Néerlandais, il y a un certain nombre de spécialistes qui sont au plus grand nombre qu'en France. Oui.
La revue de presse.
Elisabeth Royer, dans le Centre Presse, le quotidien de la Vienne, un article: Rupert de Chièvre n'est pas prioritaire. Donc bien sûr, nous mettrons le lien sur la page de l'émission. On apprend dans cet article que la réouverture du musée Rupert de Chièvre, à Poitiers, fermé depuis 2009, n'est toujours pas à l'ordre du jour. La municipalité se targue cependant de vouloir construire de nouvelles réserves pour le musée Sainte-Croix, sur plusieurs mandatures tout de même. Donc construire des réserves sur plusieurs mandatures, ça fait sur plusieurs, peut-être presque dizaines d'années, ce qui est quand même inquiète un peu. Tout ça est très bien, hein, mais l'un ne devrait pas empêcher l'autre. Comment une ville peut-elle se satisfaire d'entériner la fermeture d'un musée, surtout lorsque parallèlement elle va consacrer 1,5 million d'euros à un projet particulièrement fumeux, appelé la salle d'art visuel, prévu à l'emplacement de l'ancien théâtre qu'elle veut dénaturer. Sur cette histoire de l'ancien théâtre, vous savez que c'est un théâtre des années 1950, si je ne me trompe pas, avec un intérêt réel, d'un vrai intérêt architectural. Et pour cela, je renvoie à un autre article qui est publié dans la Gazette du Théâtre. En fait, c'est un petit fascicule publié en PDF sur Internet par les associations qui s'opposent au projet du maire de Poitiers, où ils annoncent les nombreux recours, en cours ou à venir, qui vont lutter contre cette dénaturation du théâtre. Notons que la SPPEF, est aux côtés du collectif de défense de l'ancien théâtre. Autre article dans le journal du dimanche du 14 septembre 2014, Marianne Kléber, au Louvre, révolution souterraine. Elle rappelle que le montant de 60 millions d'euros qui vont être dépensés pour la réfection de l'entrée sous la pyramide, un chiffre qui nous paraît quand même un peu déraisonnable dans une période de vaches maigres où les budgets d'acquisition, par exemple, sont notoirement insuffisants. La course au nombre de visiteurs dans laquelle se sont lancés les grands musées français finit par leur coûter beaucoup plus cher que les ressources supplémentaires qu'elles leur apportent. Je rappelle que Jean-Luc Martinez avait dit qu'il était opposé à l'augmentation sans cesse du nombre de visiteurs. On a l'impression que malheureusement que même s'il s'y oppose, c'est une machine infernale et que par sa nature même, le Louvre attire de plus en plus de monde et qu'on va être obligé d'adapter de plus en plus le Louvre au nombre de visiteurs. Je pense que c'est une réflexion qui mériterait d'être menée, parce que c'est vrai que dépenser 60 millions d'euros pour une entrée, ça paraît quand même très très cher. Rémi Nattis, je retourne à nouveau vers vous. Donc vous avez acquis récemment un fonds très important de gravures de Sébastien Leclerc. Dites-nous, alors nous avions publié un article sur cette acquisition, assez remarquable. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Je n'avais pas beaucoup décrit ce fonds.
Alors oui, c'est un fonds qui est très intéressant en tant que tel et également pour son histoire. Donc c'est un fonds d'un des plus grands graveurs du XVIIe siècle, donc qui s'appelle Sébastien Leclerc. Sébastien Leclerc est l'auteur d'un œuvre de plus de 3000 estampes sur des sujets extrêmement divers. Il a participé à des illustrations de livres, il a travaillé avec l'Académie des sciences, il a fait un certain nombre d'œuvres plus artistiques. C'est vraiment quelqu'un qui est assez extraordinaire dans sa capacité à graver sur des thèmes très 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 différent. Et c'est quelqu'un qui a été reconnu comme un des plus grands graveurs dès sa vie même, qui était bien évidemment membre de l'Académie de peinture et de sculpture. Et du coup, il y avait des amateurs qui ont collectionné son œuvre très très rapidement. Et ce que nous avons acheté là, c'est le fonds d'un de ces amateurs, alors un petit peu plus tardif, du XVIIIe siècle, qui s'appelle Jambert, et qui est très très intéressant parce que Jambert est l'auteur du premier catalogue raisonné de Sébastien Leclerc. Donc c'est une personne qui était un libraire, qui était de ce milieu du livre, souvent très lié aux estampes, et qui a été passionné sa vie durant par un certain nombre de... des œuvres, soit complets en vente, soit pièce par pièce, et qui a réussi à faire un œuvre de Sébastien Leclerc extrêmement complet, qui lui a servi de base pour rédiger ce catalogue raisonné. Donc c'est très intéressant pour l'histoire de l'art, dans la mesure où c'est le seul cas que l'on connaisse, enfin, en tout cas que je connaisse moi, où nous avons un catalogue raisonné du XVIIIe siècle, de 1772, donc extrêmement tôt, et qui se fonde sur un fonds qu'on conserve encore. Et donc c'est ce fonds que nous avons acquis et qui va être mis en valeur.
Avec beaucoup d'œuvres, il y a des gravures que vous avez déjà, je suppose, forcément.
Oui, forcément. Alors la Bibliothèque nationale de France possédait un œuvre de Sébastien Leclerc qui était déjà très important, qui était celui de Beringen. Donc ce Beringen, qui était grand écuyer, fait partie des très grands amateurs du début du XVIIIe siècle, et sa collection a été achetée dans les années 1720 par le roi de France, et donc est à la Bibliothèque royale depuis cette période-là. Et donc, on possédait un œuvre extrêmement complet. Le fonds Jambert nous permet de l'enrichir de quelques estampes qu'on ne possédait pas, assez peu, surtout des états supplémentaires. Il y a un certain nombre de dessins préparatoires qui avaient été collectionnés par Jambert aussi et qui vient enrichir nos fonds, puisque c'est également quelque chose qui n'est pas tout à fait connu par tout le monde, mais que les fonds de dessin du cabinet des estampes de la BNF sont également très très importants.
On rappellera qu'une très belle exposition a eu lieu récemment. Et voilà. Et qu'un inventaire vient d'être publié, dont je parlerai très prochainement. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de dessins 17e à la Bibliothèque nationale.
Et voilà. Et donc ça s'est encore enrichi de cette manière-là. Au-delà des estampes pièce par pièce, c'est vraiment le fonds en tant que fonds qui possède un véritable intérêt, d'où le fait qu'il soit traité dans nos collections en tant que fonds avec une cote unique et non pas estampe par estampe.
D'accord. Et comment peut-on alors ? Est-ce que je crois qu'il y a une exposition actuellement qui va s'ouvrir à Metz, si je ne me trompe pas ?
C'est ça exactement sur Sébastien Leclerc.
Sur donc, Sébastien Leclerc.
Qui est une exposition donc dont le commissaire est Maxime Préau, donc mon prédécesseur sur le XVIIe siècle. Qui est justement l'auteur de l'inventaire du fonds français sur Sébastien Leclerc, donc le catalogue qui fait référence, qui lui-même avait travaillé donc sur les fonds de la BNF, mais qui avait pu voir déjà ce fonds Jambert qui était conservé en main privée, qui était chez James à cette époque-là, et donc qui avait été pris en compte pour cet inventaire. Et donc Maxime Préau, pour le tricentenaire de la mort de Sébastien Leclerc, qui est mort en 1714, organise une exposition à la bibliothèque municipale de Metz.
Ou certaines de ces estampes que vous avez acquises seront présentées ?
Non. Non. Ça, c'est quelque chose qui s'est fait justement très, très récemment, après que l'exposition avait été organisée, donc on ne prête pas
D'accord. Et si on veut voir ces estampes, on peut toujours prendre rendez-vous. Comment est-ce qu'on peut consulter alors ?
Alors, ce n'est même pas la peine de prendre rendez-vous, puisque c'est justement l'avantage d'être dans une bibliothèque, c'est que nous possédons une salle de lecture, et même deux, puisqu'il y a la salle de lecture du fond normal et la salle de lecture de la réserve, qui sont accessibles avec une carte recherche de la BNF. Si on n'a pas de carte recherche, il y a toujours la possibilité de se faire faire une carte pour un jour ou de prendre rendez-vous avec un conservateur sur un point ponctuel. Et donc, ces fonds sont communicables et donc il n'y a absolument aucun problème pour les voir chaque jour pour ce qui est des fonds normaux et les mardis et jeudis matin pour ce qui est des fonds de la réserve.
Alors revenons vers votre activité personnelle, on l'avait abordé, mais on n'y a pas répondu évidemment, c'est qu'est-ce, sur quoi travaillez-vous actuellement? Quelles expositions, quels livres préparez-vous? Donc vous personnellement, historien de l'art, historien, je ne sais pas.
Moi personnellement, en tant qu'historien de l'art, en tout cas dans le cadre de mon travail au département des estampes, on est en train avec trois collègues de préparer une grande exposition de synthèse sur l'estampe sous le règne personnel de Louis XIV. Donc avec Vanessa Selbach qui est également conservatrice à la BNF et avec Luis Marquesano du Getty Research Institute et Peter Furing de la Fondation Custodia. Donc une grande exposition qui aura lieu à l'été 2015 au Getty Research Institute et à l'automne 2015 à la BNF François Mitterrand. Exposition qui est partie du constat qu'il existait des catalogues d'exposition sur les estampes au XVIe siècle, qui avaient eu lieu dans les années 90-94, je crois, sur la première moitié du XVIIe, The Musketeers, sur le XVIIIe siècle, From Regency to Empire, mais qui avait un trou sur la deuxième moitié du XVIIe siècle, de manière extrêmement étrange, puisque c'est vraiment le moment de l'estampe française, le moment où tout le monde regarde vers la France et où l'estampe française sert de modèle à l'Angleterre, aux Pays-Bas et ainsi de suite. Ce qui n'était pas le cas un siècle plus tôt où c'était des graveurs flamands qui s'installaient à Paris et que la gravure anversoise était beaucoup plus importante que la gravure parisienne encore à la fin du XVIe siècle. Donc cette exposition sera d'à peu près 120 pièces avec une approche thématique, c'est-à-dire que ça se fondera vraiment sur de quoi parle une estampe à cette époque-là, avec de la propagande de Louis XIV, avec les estampes artistiques, avec les portraits, avec les estampes liées à un fait dans l'actualité, les estampes d'ornement et d'architecture, et ainsi de suite. Et ça donnera lieu à l'apparition d'un gros catalogue d'expositions, un en anglais et un en français, qui chacun feront dans les 400 pages. Donc on remercie les éditions de la BNF et du Getty qui nous ont permis de faire un vrai travail scientifique par derrière avec de la place pour publier ça. Et donc ça sera, à mon avis, très intéressant.
Et est-ce que les estampes sont comme les dessins, il faut les exposer 3 mois, les mettre en réserve 3 ans, ou est-ce qu'on peut les exposer 3 mois et 3 mois? Ma question donc, est-ce que ce seront les mêmes estampes exposées au Getty et à la BNF?
Alors, un petit peu les deux. C'est-à-dire que une des volontés du Getty était aussi de mettre en valeur leur fonds d'estampes qu'ils créent depuis quelques années. Donc, une partie des estampes viendront de leur fonds, qui est également très riche et très beau et qui valait le coup d'être mise en valeur. Et on prêtera une autre partie. Donc, il y aura environ un tiers des estampes exposées au Getty qui proviendront de la Bibliothèque nationale. À la BNF, on empruntera très peu, et donc ça sera essentiellement des estampes du fonds de la BNF. Et sur le fond, oui, les estampes sont des œuvres fragiles qu'on ne montre pas, qu'on ne met pas à la lumière trop longtemps. Donc les règles, c'est normalement 3 mois tous les 3 ans. On peut aller un peu au-delà dans des cas extraordinaires, en particulier s'il y a vraiment un message scientifique par derrière, mais dans la mesure du possible, on s'astreint à ces 3 mois. Ouais.
Et vous-même, vous collectionnez ?
Moi-même, je ne collectionne pas vraiment. J'ai quelques estampes anciennes, mais qui me servent justement à accrocher au mur chez moi, en particulier d'un portraitiste qui s'appelle Antoine Masson, que j'aime énormément. Et donc, j'ai quelques portraits de vieux personnages de cour dans mon salon. J'ai quelques estampes actuelles faites par des artistes que j'apprécie particulièrement. En particulier, il y a une artiste qui s'appelle Lise Follier-Morales, que j'aime beaucoup. Et donc, j'ai deux œuvres d'elle. Mais quand on travaille à la BNF et qu'on a accès au fond chaque jour, ça semble un petit peu vain d'essayer d'avoir des choses chez nous. J'ai accessoirement pas vraiment la fibre du collectionneur en tant que tel. J'ai pas mal de livres anciens, mais là encore, c'est assez lié à des travaux personnels, des travaux scientifiques de bibliographie. Et donc, j'ai finalement assez peu d'estampes chez moi. Si je peux me permettre sur les choses que nous faisons aussi, je souligne également la parution d'un livre sur lequel L'ensemble des conservateurs du département ont travaillé, dont je suis le co-directeur avec Valérie Sueur-Hermel, qui est la conservatrice du 19e, qui est un livre de valorisation et de vulgarisation, parce que c'est également, à mon avis, et là on rejoint un petit peu le côté Wikipédia, un des rôles des spécialistes, de faire en sorte qu'on ne reste pas dans notre tour d'ivoire, mais qu'on diffuse vers l'extérieur, et également que ce soit des spécialistes eux-mêmes qui le fassent, pour éviter que ce soit des gens qui n'y connaissent rien, qui le fassent. Et donc on est très content d'avoir pu faire aux éditions de la BNF un livre sur les animaux dans les estampes, des origines à nos jours, qui provient en fait d'une petite exposition qu'on avait fait au Salon international de l'estampe du Grand Palais il y a 2 ans, et qui avait tellement plus que on nous a proposé de transformer ça en un livre. Donc c'est quelque chose qui est d'accès très très aisé, avec des notices qui sont assez courtes, mais qui permettent juste de soulever un enjeu, un intérêt historique, une anecdote. Et donc c'est un beau livre qui peut être une première entrée dans les estampes pour les gens qui ne se sentent pas spécialistes, et qui sortira pour cet automne.
Livre.
D'abord, des expositions que nous avons vues. Alors, Fra Angelico Botticelli, chef-d'œuvre retrouvé, sous la direction de Michel Laclotte et Nathalie Vol, c'est aux éditions Cercle d'Art. C'est une exposition qui a lieu au Musée Condé à Chantilly et qui se propose de présenter les différents tableaux primitifs, essentiellement florentins, 13e, 14e siècle plutôt, et 15e siècle, pardon, jusqu'au 15e siècle présent. Donc, c'est un assez joli catalogue avec de belles reproductions. Nous parlerons de l'exposition. L'exposition est bien avec, comment dire, un accompagnement par des vidéos un petit peu qui nous paraît un peu parfois redondant, et on a l'impression, ça je l'écrirai dans ma critique, que de temps en temps le visiteur va regarder plutôt le tableau en vidéo plutôt que le tableau qu'il a à côté de lui. Ça, c'est, je pense qu'on va un peu loin dans le multimédia. Mais en tout cas, c'est une exposition qui a le mérite de faire voir de manière très bonne. On sait que le musée Condé ne peut pas prêter, et que le musée Condé a un accrochage qui est toujours le même, celui qui a voulu le duc d'Aumale. Et là, ça permet de voir des œuvres à la hauteur d'homme, donc on voit bien ces œuvres, ces tableaux qui ont été restaurés pour l'occasion. Donc une partie a été restaurée pour l'occasion. Bénédicte Bonnet-Saint-Georges écrira sur Les Turner, donc le Turner tardif, une exposition à la Tate Gallery, parce qu'elle nous a dit, une très bonne exposition. En tout cas, il y a un beau catalogue assez complet. On sait que la Tate Gallery présente beaucoup de Turner, et ça, c'est le Turner de la fin, celui qui devient un peu presque impressionniste. J'aime pas beaucoup ce terme, parce que finalement, on le met à toutes les sauces. Également, Bénédicte Moïse-Saint-Georges nous parlera de 2 expositions Courbet qui ont lieu en Suisse. Gustave Courbet, les années suisses au musée Ratt. Donc c'est publié par Arlis, et Gustave Courbet tout simplement, qui est à la fondation Beyeler. 2 expositions sur le même peintre qu'elle a vu au même moment. Une exposition qui là semble nettement moins bonne, c'est au musée Mayol. Les expositions du musée Mayol sont très inégales. Il y a eu de très belles expositions récemment. Murano, c'est une belle exposition. Naples et toute l'argenterie, l'orfèvrerie de Naples est très belle. Les Borgia ne semblent pas être de ce même. Semblent un peu. Comment dire, un peu décousus, mais on en parlera peut-être ou peut-être pas. Le catalogue en tout cas est paru. Maureen Marozzo a publié, alors ça, nous connaissons Maureen Marozzo qui est journaliste au Journal des Arts, a publié un livre intitulé Un Van Gogh au poulailler et autres incroyables aventures de chefs-d'œuvre. Je ne l'ai pas lu, mais c'est certainement très agréable à lire. Ce sont des histoires que beaucoup connaissent, mais qui en tout cas permettront, ce sont une douzaine, 12 œuvres d'art, l'histoire de 12 œuvres d'art qui en tout cas intéresseront ceux qui ne connaissent pas forcément ces histoires, par exemple l'origine du monde, Guernica, etc. Comment sont nés ces tableaux, ce qu'ils sont devenus, etc. C'est un peu de la vulgarisation, mais je sais que pour Wikipédia, c'est de la bonne vulgarisation, et j'espère, et je suis certain que ce livre, que je ne peux pas critiquer puisque je ne l'ai pas lu, mais de la bonne vulgarisation, parce que Maureen Marozzo est une bonne journaliste. Un livre reçu, Les impressionnistes avant l'impressionnisme, le groupe de Batignolles, donc paru aux éditions FVW par Claude-Jean Collat. Donc à nouveau les impressionnistes, mais il est toujours amusant de voir ce que sont les impressionnistes avant les impressionnistes. Et finalement, chercher dans la peinture impressionniste tout ce qui n'est pas impressionniste, c'est parfois plus amusant que de ressasser une fois de plus l'histoire de l'impressionnisme elle-même. Et enfin, L'art et l'histoire du Nord-Pas-de-Calais, par François Reinhardt et Vincent Broglieel, publié par Femme Larmaillon, La région des musées. Alors on sait que c'est la région des musées, c'est ce que Daniel Percheron, le président du conseil régional, n'arrête pas de dire. Donc c'est un ouvrage, là encore, grand public, mais qui m'a l'air assez bien fait, sur les différents musées du Nord-Pas-de-Calais, y compris le Louvre-Lens, dont nous avons dit ce que nous pensons plusieurs fois sur le site. Je me retourne une dernière fois vers notre invité, Rémi Mathis, pour voir avec vous une exposition que vous avez vue récemment, la Tour de Nesle à Mazarine, vous disiez. Donc, la Tour de Nesle, c'est ça, la
Mazarine? Oui, c'est ça. Pour
façon, donc, dont je vous avoue honteusement pas entendu parler, mais qui a l'air extrêmement intéressant.
C'est bien pour ça que je la mentionne, pour souligner que des expositions ont lieu justement à des endroits où on n'a pas forcément l'habitude de se rendre et où on ne sait parfois même pas qu'il y a des expositions. Et même pour la BNF, allez aux expositions de la BNF qui sont toujours très intéressantes. Et donc, là encore, c'est une exposition qui a lieu dans une bibliothèque, la bibliothèque Mazarine, donc, qui est dans le palais de l'Institut de France, endroit qui vaut le coup d'œil en tant que tel. C'est une des plus belles bibliothèques en France.
Ce qui est terrible, c'est que j'ai honte de le dire, mais je n'étais pas au courant de cette exposition. Donc, mais si on n'est pas au courant de l'exposition, qui va l'être?
Ben oui,
c'est dramatique.
Pourtant, ils essaient de faire de la publicité, mais bon, c'est toujours difficile d'amener les gens dans des lieux qu'ils n'ont pas l'habitude de fréquenter.
Oui, mais on ne peut pas y aller, et je vais avouer que je n'avais pas l'information, ce qui est scandaleux de ma part. Je devrais l'avoir.
Suivez le compte Twitter de la bibliothèque Mazarine.
Eh bien, abonne tout de suite.
Et donc, cette exposition est intéressante, et en particulier pour un conservateur qui travaille sur les estampes, parce que précisément c'est une exposition sur un thème et qu'ils vont convoquer différents médiums pour traiter ce thème. Et c'est en plus une exposition qui s'insère dans quelque chose qui est assez à la mode actuellement, qui est de traiter un thème et de traiter la vision, la légende qui existe, tout ce paratexte qui revient. Et donc la Tour de Nesle est à la fois un endroit bien particulier qui a été peint par de très nombreux artistes, gravé par Jacques Callot, etc. Et en même temps, il y a toute cette légende sur la reine de France, les tortures, les amants, etc. Tout ce texte qui date, enfin qui est très ancien, mais qui a été, qui a regagné une importance au cours du 19e siècle, qui a donné lieu à des pièces de théâtre. Et donc cette exposition fait le point sur tout ça, avec à la fois une approche historique, archéologique, iconographique, avec comme commissaire sur cette partie-là le conservateur des estampes de la bibliothèque Sainte-Geneviève, et pour aller jusqu'à un costume d'une pièce de théâtre où Sylvia Montfort a joué dans ces questions de la Tour de Nesle, et ainsi de suite.
Bien que je vienne juste de m'abonner au compte Twitter de la bibliothèque Mazarine. Donc, pas de nouvelles questions sur Twitter. Merci Rémi Mathis d'avoir participé à cette émission.
Merci à vous.
La semaine prochaine, 25 septembre, nous recevrons Emmanuel Starkey, président du Château de Compiègne, qui devait venir aujourd'hui et qui n'a pas pu pour, malheureusement, mais qui sera là la semaine prochaine avec nous. Et merci à Rémi Mathis d'avoir participé à cette émission.